Des fois, donc, mes parents, donc, ils me disaient, voilà, on va prier par rapport à telle situation. Et voilà, on s'est rassemblés, on priait ensemble. Et on s'est rendu compte, avant même, une heure après qu'on avait fait la prière, que Dieu avait déjà exaucé quelques jours auparavant, par rapport à la situation qu'on avait présentée à Dieu. Il y a un verset en Ésaïe qui dit qu'avant même qu'on arrête de demander, il est déjà en train de répondre. Amen. Pourquoi nous prions? Parce que nous avons la foi. En Luc chapitre 18, il y a cette parabole qui dit, voilà cette parabole, il dit, pour que vous puissiez toujours prier et ne pas vous lasser, la décourager. Ne pas donc tomber dans un découragement quand vous ne voyez pas les prières exaucées tout de suite. Parce que Dieu répond de trois manières différentes. Quand on prie, il répond de trois manières différentes. Il répond toujours. Parfois c'est non, parfois c'est oui, et parfois c'est attends. Alors, n'est-ce pas? C'est vrai. Parfois c'est non, voilà, on le comprend. Ce n'est pas la volonté de Dieu, ok? On a de prier. Parfois c'est oui, et on voit l'exaucement immédiat, et parfois c'est attendre. Et pendant ce temps d'attente, le juste continue à vivre par la foi. Amen?
Amen.
Pendant ce temps d'attente, on continue à vivre par les promesses de Dieu. Combien de fois nous nous trouvons face à des montagnes? Des montagnes, comme on le chantait tout à l'heure, rien n'est impossible. Mais il y a des fois, quand on est devant des montagnes qui semblent être impossibles. Impossible. Alors des fois le Seigneur met dans notre cœur de passer un temps dans la prière. Parce qu'il y a trois domaines dans lesquels nous devons vivre la prière. Premièrement, c'est notre temps personnel. Chaque jour, notre temps seul avec Dieu. Alors c'est tout à fait normal que nous puissions parfois accepter des défis. On va lire la Bible en un an. Bon, on lit quelques chapitres ou quelques versets, ou quelques chapitres chaque jour, et on passe un temps dans la prière. Chaque fois qu'on lit la Bible, il faut avant prendre le temps de dire, Seigneur, parle à mon cœur. Qu'est-ce que tu veux me dire au travers de cette lecture? Qu'est-ce que tu veux que je note? Des fois, donc, on est en train de lire et tout d'un coup, on a une pensée, on la note. On la note. Hein? Donc, par exemple, ça c'était vraiment donc, un verset qui n'était pas venu forcément dans un moment de prière seul. Mais c'était donc le 31 janvier 1984, quand Alfredo venait juste de se convertir, donc ça fait quand même 31 ans, bientôt 32 ans, ou non, 32 ans. Alors, il venait juste de se convertir et j'étais en train de lui apprendre comment s'approcher des dieux, etc. Et je lui ai dit, on va lire le verset en Ésaïe 1,18 qui dit, « Venez et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, vous avez donc l'homme comme la laine. Bénis et plaidons, je veux vous transformer, je veux vous purifier. » Et Alfredo a lu, en fait, la Bible à Jérémie 1,18. Et alors, c'était vraiment un moment dans lequel nous étions face à une décision très importante. On avait vu ce bâtiment, ici. La copropriété s'était opposée à l'achat. Et alors, on rentre à la maison, et Denise et Brian et Monique nous ont accueillis. Alfredo est donc venu avec nous. Et alors, on était face à cette décision, on était, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse par rapport à ce bâtiment? On l'a vu, on le considère, la propriété s'y oppose. Et à ce moment-là, Alfredo se trompe, il ouvre la Bible à Jérémie 1,18, et il commence à lire, « Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre les peuples du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer de l'éternel. » Donc, quand on a lu ces passages, et c'est noté 31 janvier 1984, quand on a lu ce passage, on a compris quelque chose. Une heure après, mon père m'appelait, il me disait, « Marc, alors, qu'est-ce qui se passe par rapport au bâtiment ?» Je lui dis, « Mais la conformité s'est opposée, et donc c'est impossible de l'avoir, parce que c'était que l'achat de cette salle. » Je vous ai expliqué cela à différents moments, que l'achat de cette salle, et après on allait partager donc l'entrée et l'étage donc avec l'entreprise qui était propriétaire. Et alors quand on a lu ce verset, on a senti que c'était comme une promesse de Dieu. Et mon père me dit, Marc, tu vas voir le propriétaire et tu lui demandes comment on peut avoir la salle sans que les copropriétaires dans la vie. Le lendemain, je suis venu voir notre propriété, et le copropriétaire, je lui ai dit, alors, comment est-ce qu'on pourrait avoir donc la salle sans dans la vie. Il a dit, mais monsieur, on est au bord de la faillite, moi je suis mourant d'un cancer, on vous vend deux étages en entier et ils ont enlevé la vie. Deux étages en entier, Alors, oh, c'était trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Alors, deux étages en entier, en plein centre de Paris, mais alors, bon, c'est intéressant. Donc, je lui ai dit, mais voilà, quel prix. Et maintenant, le prix, c'était un prix vraiment, un prix béni. Un prix béni. Alors, ce qui s'est passé, c'est que une église aux États-Unis, je vous ai parlé de ce frère qui est décédé il y a deux semaines, qui avait 97 ans, c'est son église, qui nous a fait un prêt pour qu'on puisse acheter ici, il y a 31 ans. Et alors, vous voyez, donc, c'est dans la prière, c'est dans la prière, c'est dans les promesses de Dieu. Je vous donne le détail rapidement pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Alors donc, mon père, donc, par le pasteur, il dépose une certaine somme dans mon compte, donc aux États-Unis, et on fait venir l'argent sur notre compte ici en France. Et à l'époque, ça mettait 3 semaines pour que l'argent puisse tomber sur le compte. Et alors, l'argent est venu. Moi, j'ai écrit un chèque en dollars. Et je l'ai déposé sur notre compte français. Le fonds était à 4,15 francs le dollar. Je dépose le chèque et le lendemain, il était à 9,35 francs. Il est monté jusqu'à 10,60 francs. Et le jour que l'argent est tombé sur notre compte, 3 semaines après, il était à 8,32 francs. Bon, c'était le double de 4,15 francs. Et au lieu de payer 650 000 euros, pour ainsi dire, on a fini par payer 360 000. Et on avait le bâtiment. Vous voyez, on était dans la prière, on était face à des décisions, face à des choix. Et là, le Seigneur donne des promesses pour accompagner la prière. Et ce n'est pas un hasard, le Seigneur nous parle. Pourquoi? Parce qu'il veut être dans tous les détails de notre vie. Il veut s'intéresser à tous les détails de notre vie. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on soit un peuple de prière. Notre temps personnel, notre temps seul avec Dieu, notre temps dans lequel nous ouvrons la Bible, pas au hasard, hein. Il y a des gens qui disent, bon, moi je vais me laisser conduire. Judas est allé se pendre. Ah non, 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 c'est pas ça, c'est pas pour moi ça. Va et fais du même. C'est deux phrases qui existent dans la Bible. Mais ce n'est pas de phrase qu'on va sortir du contexte. Et c'est pour ça qu'il faut avoir donc un moyen systématique de lire la Bible. Et de prier aussi. Parce que la prière est tellement, tellement importante dans notre vie. Dans la Bible, il y a plusieurs personnes dans la Bible qui avaient l'habitude de prier. Il y a Abraham, en Genèse chapitre 18, verset 23. Il a prié. Il a prié à ce moment-là, dans sa relation avec Dieu. Et à un moment donné, il demandait à Dieu qu'il épargne Lot de la destruction. Parce que Sodome et Gomorre étaient des villes donc d'iniquité. Et alors il se présente devant Dieu, il dit, mais Dieu, s'il y avait 50 personnes qui étaient justes et droites, est-ce que tu épargnerais la ville? Et Dieu lui dit, s'il y a 50 personnes, d'accord. Mais il savait qu'il n'y avait qu'un seul. Sinon, s'il y avait 40 et 30 et 20, et en fin de compte, il intercède auprès de Dieu. Dieu va garder Lot. Dieu va protéger Lot. Il ne va pas le détruire. Parce que Lot était dans une ville où il y avait le compromis. Mais Dieu avait aussi, Abraham avait l'oreille de Dieu. Vous vous rappelez aussi, quand Abraham, il va monter pour offrir Isaac sur l'autel de sacrifice. Et il va monter avec Isaac. Dieu lui avait dit, tu vas l'offrir. Tu vas le tuer, tu vas me l'offrir comme sacrifice, tu vas l'offrir, mon peuple va descendre. Et alors, à un moment donné, Abraham, il dit à ses serviteurs, l'enfant et moi, nous allons monter pour adorer Dieu, et nous reviendrons. C'est intéressant. Par la foi, il disait, nous reviendrons, parce que Dieu lui avait dit, tu vas me l'offrir. Mais en fin de compte, quand il est monté sur la montagne, quand il a construit l'autel avec des pierres, quand Isaac lui dit, mais papa, alors il y a le bois, il y a tout ce qu'il faut, mais où est l'agneau? Où est le sacrifice? Et Abraham lui dit, Dieu pourvoira. Un homme de prière, Dieu pourvoira. Mais c'est toi qui dois être le sacrifice. Et au moment quand il va ligoter donc Isaac, et il va le placer sur l'autel des sacrifices, et au moment où il va l'égorger, Dieu l'arrête. Et lui dit, Abraham, ok, je vois ton cœur. Je vois ton obéissance. Regarde, il y a un animal qui est là, attrapé, prends-le et offre-le en sacrifice. Mais Abraham était un homme de prière. Moïse était un homme de prière. Anne, c'était une femme de prière. Elle venait tous les ans pour prier Dieu au temple. Et bien sûr, sa prière, au fond de son cœur, c'était qu'elle voulait un enfant. Et pendant des années, elle venait. Et le jour est venu quand Dieu a exaucé sa prière. Mais Anne, elle avait l'habitude de venir dans le temple pour prier. Ah, Élie, il avait une vie de prière. Élie, il avait il avait vraiment donc l'oreille de Dieu. Et à un moment donné, Élie, il est confronté au prophète de Baal, en 1 Roi chapitre 18. Et parce qu'il sait un homme de prière, parce qu'il sait que Dieu l'entend, parce qu'il sait que Dieu écoute sa prière, il va lancer un défi au prophète de Baal. Il va leur dire, alors, le Dieu qui enverra le feu, c'est le vrai Dieu. Donc les prophètes de Baal se sont préparés, et ils ont fait le nécessaire, ils ont bâti des autels, etc. Ils ont commencé à crier vers leur Dieu, vers Baal. Et rien ne s'est passé. À un moment donné, même Élie tombe un petit peu dans le sarcasme, il leur dit, mais peut-être il est parti en vacances, votre Dieu, alors criez plus fort, etc. Et alors il faisait tout pour essayer d'avoir la réaction de leur Dieu, il n'y avait rien. Le mot est venu quand c'était à Élie de demander à son Dieu. Et il a dit, alors vous allez creuser autour de l'autel, donc une espèce de fosse, on va remplir d'eau, on va imprégner l'autel d'eau pour que vous puissiez dire que c'est vraiment pas quelque chose de truqué, etc. Et alors il le fait, et là il dit, Seigneur, ce n'est pas pour que moi je sache que tu es Dieu, mais c'est pour qu'eux ils sachent que tu es Dieu, c'est pour qu'eux ils sachent que celui à qui je prie est le Dieu d'éternité, est le seul vrai Dieu. Alors Seigneur, exauce, et le feu tombe, alléluia, le feu tombe pour moi, et il y était un homme de prière. Daniel était un homme de prière. Trois fois par jour, il se mettait à genoux, sachant que le roi avait dit que c'était interdit de prier à notre Dieu. Et alors Daniel, il se met à genoux trois fois par jour, comme si de rien n'était. Il a ouvert les fenêtres vers Jérusalem, parce que le temple donc était à Jérusalem. Alors il ouvre la fenêtre vers Jérusalem et il priait trois fois par jour. Alors bien sûr, il y avait ceux qui ont bu, qui ont rapporté au roi, et tu sais, tu avais déclaré que voilà, qu'il faut t'adorer que toi, qu'il faut adorer qu'un seul Dieu, etc. Pas le Dieu d'Israël. Et alors, Daniel, vous connaissez l'histoire, il est mis dans la fosse au lion. Dieu le délivre. Dieu, il est là donc à ses côtés pour apaiser et pour rendre donc les lions comme les petits chatons. Hein. Et alors, le roi vient le matin, il l'appelle, il dit Daniel. Et bien sûr, Daniel dit, mais je suis là. Mais bien sûr que je suis là. Mon Dieu, en qui j'ai confiance, à qui je prie. Et le résultat, c'était que le roi, il a fait jeter donc ceux qui avaient donc accusé Daniel dans la fosse au lion. Et lui, il a déclaré que tout le peuple devait proclamer que Dieu était l'éternel Dieu. Il y a tant d'autres dans la Bible. Il y a Paul. Paul, bien sûr, toutes ses prières, si vous lisez les prières de Paul, c'est extraordinaire. Priez pour les personnes avec les prières de Paul. Par exemple, Éphésiens chapitre 3, verset 14, quand il dit qu'il plie ses genoux devant Dieu. Et il dit, Seigneur, je te demande que tu fasses que l'homme spirituel grandisse, donc en chaque membre du corps, en chaque membre de l'Église, et qu'il grandisse en amour de Dieu, et qu'il puisse comprendre quelle est la longueur, la profondeur, la longitude, l'auteur de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. La prière est tellement importante dans notre vie. Si nous sommes en train de prier dans le lieu secret, Dieu nous le rendra dans le lieu public. Et au Matthieu chapitre 6, quand tu pries, rentre dans un lieu secret. Quand tu pries, ne montre pas à tout le monde que tu passes voilà, du temps à prier, etc. Mais prie et ton Père qui voit dans le secret, il saura te répondre, il saura te le rendre. Il y a des fois aussi, quand on a des moments collectifs dans le jeûne et la prière, mais aussi, on peut avoir des moments seuls dans le jeûne et la prière. Et moi, je reviens sur un témoignage que j'ai vécu donc en 2014. Alors, en 2014, le 1er septembre, je le sentais dans mon cœur. Et on ne savait pas encore par rapport aux travaux et tout ça. Mais je sentais dans mon cœur qu'il fallait que je passe un temps dans le jeûne et la prière par rapport à l'Église. Et alors, donc, à la rentrée, donc 2014, j'ai pris 7 ans, et arrivé à la fin de la première semaine, Dieu me dit, encore. Bon, encore. Voilà, c'était un jeûne total. Donc, encore. Et je me suis rendu compte, dans cette semaine, c'est là qu'on l'église chinoise nous a contactés pour savoir si on pouvait avoir un rôle plutôt pastorale, donc aidant et encourageant donc ceux qui dirigeaient l'église, et aider aussi à veiller à la formation éventuelle des personnes qui pourraient vraiment être responsables de cette église. Et alors j'ai compris que je devais continuer à prier par rapport à ça. J'ai compris dans la semaine que c'était pour ça que Dieu m'avait demandé. Et à la fin de la deuxième semaine, encore. Bon, encore. Je ne savais pas que c'était pour bien. Et après, j'ai compris que c'était pour bien. Et quand je suis arrivé le 19 novembre 2014 à Dieppe, et que j'ai entendu la tristesse donc, de cette église, et comment cette église elle était complètement défaite et complètement en miettes, et que pendant 2-3 heures, on a pu prier, pleurer ensemble, etc., j'ai compris que Dieu m'avait demandé d'encore intercéder et prier pour quelque chose que je ne connaissais pas. Et aujourd'hui, quand on voit le fruit, et quand on voit ce que Dieu a fait, et ce que Dieu continue à faire, et comment Dieu nous donne dans la prière des directives précises, alors ça vaut la peine d'être à l'écoute de la voix de Dieu. Et quand on est à l'écoute de la voix de Dieu, quand le temps seul, et qu'il met sur notre cœur, il met un fardeau sur notre cœur, il nous impose quelque chose, ne le rejetons pas. Ne le rejetons pas. Quand on était jeune, dans le groupe de jeunes aussi, nous passions parfois 3 jours dans les jeunes de la prière. Et je vais vous dire, il y avait des choses extraordinaires. Parce que quand on a commencé, nous, en tant qu'adolescents, à l'époque, il y avait une dizaine d'églises, donc, dans notre mission, au Mexique. Et ce qu'on faisait, donc, après le culte, on sortait tous les jeunes, on sortait dans les villages aux alentours, et on avait la réunion. On avait 13, 14, 15 ans, et il y avait ceux qui jouaient la guitare, ceux qui prêchaient, ceux qui chantaient, etc., ceux qui enseignaient l'école de dimanche. Et notre groupe de jeunes, nous avons ouvert une quinzaine d'églises dans l'État de Nouveau-Léon à l'époque. Parce que 6 mois après, on disait à mon papa, il faut un pasteur parce qu'il y a 20 familles qui sont converties, qui viennent tous les dimanches aux réunions, etc. Et c'est comme ça que le groupe de jeunes a commencé à avoir un impact. Et aujourd'hui, de ce petit village, on était 40 jeunes, donc plus de la moitié nous sommes au service, donc à plein temps, dans différents endroits dans le monde entier, en servant le Seigneur. Mais c'était dans la prière, c'était dans des délires de prière, dans des moments dans lesquels on se plaçait devant Dieu et on disait, Seigneur, on ne se lèvera pas jusqu'à ce que tu nous aies touchés, jusqu'à ce que tu nous aies bouleversés. On ne se lèvera pas jusqu'au moment que tu nous donnes des directives. Et pour avoir reçu des appels, pour être missionnaire, pour être pasteur. Et aujourd'hui, il y a des... Vous savez, au Mexique, en 1949, il y avait 40 000 évangéliques. Aujourd'hui, il y a plus de 24 millions d'évangéliques. Alléluia! Plus de 24 millions, pourquoi? Parce que l'homme de Dieu est venu, parce que les personnes ont prié, parce que les personnes ont toujours intercédé. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un espoir pour la France. En France, il y a 2440 églises. Il y a une église qui s'ouvre, une nouvelle église qui s'ouvre, d'après ce que je comprends, tous les 10 jours. Ça, c'est extraordinaire. Mais bien sûr, il faut qu'il y ait un peuple de prière. Il faut qu'il y ait des personnes qui viennent dans les églises, qui se convertissent, qui soient formées. Vous savez, ouvrir une église, ce n'est pas facile. Quand vous êtes 3 ou 4 à l'ouverture, ce n'est pas facile. Chaque personne qui va venir, il faut la former. Il faut que la personne grandisse dans le Seigneur. Il faut attendre. Moi, je me rappelle, dans les premières années, quand on a ouvert ici, donc il y avait des personnes qui avaient à peine 2-3 mois de conversion. Ils enseignaient à l'école du dimanche. Ils étaient actifs. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qu'on avait. On n'avait pas des personnes qui étaient mûres dans le Seigneur. On n'avait pas des personnes qui s'étaient converties 20 ans auparavant. C'était tout ce nouveau. Il fallait vraiment que nous, on soit dans la prière. Et on avait une réunion de prière. On avait l'étude biblique. On avait 3 réunions le dimanche. Au départ, on mettait 5 chaises en rond ici. La salle était vide. On avait notre réunion comme si la salle était pleine. Amen. Et alors, on avait des moments de prière. Et tout le monde priait. Vous savez, quand on est un petit groupe, tout le monde prie. Les uns après les autres. Il y a une efficacité, il y a une pratique de la prière. C'est pour ça que dans le groupe de maison, c'est tellement important qu'on prie, que tout le monde s'exprime, que tout le monde ait la confiance et prenne aussi cette confiance et dit « Seigneur, tu entends notre prière. » Alors, c'est tellement important. Tellement important. Alors, ce temps seul avec Dieu, dans lequel Dieu va nous parler, mais aussi, il faut être dans un lieu public de prière chaque semaine. Je vous encourage. Incessamment. Il faut être dans un groupe de maison. Nous avons des groupes de maison. Nous aimerions ouvrir d'autres groupes de maison. Ce n'est pas toute l'église qui est dans les groupes de maison. Il y a une minorité. Mais moi, je vous encourage, veillez, demandez, soyez dans un lieu de prière public une fois par semaine. Nous avons ici dans l'église, nous avons 3 réunions de prière par semaine, par mois, en semaine. Alors, c'est l'église qui doit être là. C'est l'église qui doit être là en train d'intercéder. C'est l'église. Vous n'envoyez pas vos sujets de prière et vous restez à la maison. Venez pour que vous puissiez voir l'intensité, le zèle avec lequel on prie pour les sujets. Et ensuite, on va se réjouir aussi avec vous. Alléluia. Soyez dans un lieu public de prière toutes les semaines. Et aussi, écoutez les convocations. Le moment des jeûnes et prières qu'on va vivre ici à l'église, une fois par mois. Le moment dans lequel on va passer 2-3 jours dans les jeûnes et la prière collective. Soyez à l'écoute de ces convocations. Dieu veut nous parler parce que pour nous, nous avons recours à la prière. Jésus disait, ma maison est une maison de prière. Ce n'était pas le temple que le temple, mais c'était le fait que tous ceux qui étaient autour de Jésus étaient considérés une maison de prière. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'avoir un lieu précis. Pourquoi ? Parce que Jésus habite en nous et nous sommes la maison de prière. C'est la maison de prière qui se rassemble ici le dimanche. C'est la maison de prière qui vient et qui cherche à être agréable à Dieu, qui cherche à être à l'écoute de la voix de Dieu. Quand on voit le verset en 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, j'entendrai, j'exaucerai du ciel et je guérirai leur pays. » C'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour un élite, ce n'est pas pour un groupe qui vient régulièrement, mais c'est tout le monde qui doit être impliqué dans ce zèle de la prière. Il promet de nous écouter. En plus, la présence de Jésus est garantie. Et bien sûr, on utilise toujours le verset quand 2-3 sont assemblés, parce qu'il n'y a que 2-3 parfois. Non, non, non. Quand 2-3 sont assemblés, alors imaginez quand il y a 40 ou 50 qui sont assemblés. Je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. Pourquoi ? Pour que l'onction de Dieu soit sur leur vie. N'oubliez pas, en Ésaïe chapitre 61, quand il dit que l'Esprit de l'Éternel est sur nous, et il nous a oint, pour quoi faire? Pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Combien de vous étiez malheureux dans votre âme? Vous étiez détruits dans votre âme, et quelqu'un est venu vers vous, et vous annoncez une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il nous a oint, pour quoi faire? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour travailler à la restauration de ceux qui sont brisés. De ceux qui sont complètement à l'abandon. Qui sont donc oubliés de tous. Il y a ce verset dans le psaume 142. Où il y a une personne qui dit, je regardais à droite et à gauche. J'étais dans le désespoir. Et je me rendais compte que nul ne prenait soin de mon âme. Nous sommes appelés à prendre soin des âmes. À prendre soin des cœurs. À restaurer ceux qui ont le cœur brisé. La présence de Dieu nous inspire, et il nous donne les paroles, et il nous donne la patience, et le fruit de l'Esprit qui est exercé dans notre vie, quand nous sommes en prière, en disant, Seigneur, nous voulons le fruit de l'Esprit. Je veux le fruit de l'Esprit dans ma vie. Mais aussi, si nous avons besoin des dons spirituels au sein de l'Église, pour que l'Église soit édifiée, tout cela vient dans la prière. Ensuite, bien sûr, il dit qu'il donne à qui il veut les dons spirituels. Mais il faut qu'il y ait des dons spirituels manifestes. Les dons de discernement, le don donc, de foi, le don des miracles, le don de la connaissance, le don de la sagesse, le don des langues, le don d'interprétation des langues, pour l'édification du corps de Christ. Tout cela viendra quand nous serons dans un contexte de prière, dans un contexte de chercher la face de Dieu. C'est tellement important. Venez, le psaume 95, venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Exhortons-nous les uns les autres, il dit en Hébreux chapitre 10. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Veillons les uns sur les autres pour que notre foi soit sincère devant Dieu. Prions les uns pour les autres. Soyons dans le combat ensemble. C'est tellement plus facile de savoir qu'il y a d'autres personnes qui combattent avec nous, mais nous sommes en train de combattre aussi. Regardez en Éphésiens chapitre 6. Pourquoi nous prions? Parce que nous sommes en combat. Nous avons une lutte spirituelle. Nous sommes tous dans une lutte spirituelle. Il faut lutter. Il faut se battre pour les âmes des personnes qui sont aujourd'hui loin de la maison de Dieu. Qui sont sous l'emprise du diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse et la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et le dernier verset par rapport à l'armure que Dieu nous donne. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour tous les saints. Vous voulez être dans la joie avec les saints parce que vous vous rassemblez le dimanche. Mais prions les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. Vous vous posez une question. Vous êtes sur combien de listes de prières? Votre nom figure sur combien de listes de prières? Chez vos frères et sœurs, dans votre église locale. Est-ce que vous êtes sur une liste? Deux listes? Trois listes? Combien de personnes prient pour vous tous les jours par prénom? Combien? C'est à poser la question. On parlait de Barnabas. Barnabas était celui qui a encouragé Saul. Quand personne voulait de lui, il était le persécuteur des chrétiens. Mais Barnabas l'a pris sous son aile pendant 2 ans. Et il l'a porté. Et il a supporté, et il lui a appris comment prier, comment avancer avec Dieu, etc. Et on s'est dit qu'il faut avoir au moins 4 Barnabas dans la vie. On pense à cet homme, en Jean, cet homme qui était paralytique, qui ne pouvait pas rentrer là où était Jésus. Il avait 4 amis qui l'ont pris. Et quand ils sont arrivés, il y avait trop de monde, alors ils sont montés sur le toit, ils ont fait un trou dans le toit, et ils sont descendus, cet homme, sur son brancard. Et la Bible dit que Jésus, voyant leur foi, dit à l'homme, lève-toi et marche. Il y avait 4 personnes qui l'aimaient, qui voulaient l'emmener à Christ, qui voulaient l'emmener à la guérison, qui voulaient l'emmener à la source. Et ils l'ont emmené, ils se sont donnés à fond. Ils ont fait un trou, certainement ils ont payé. Donc les dégâts qu'ils avaient faits aux propriétaires, j'en sais rien. Mais toujours est-il, ils ont présenté leur ami devant Jésus. Et Jésus l'a guéri et il l'a sauvé. Parce qu'il y avait 4 personnes qui s'intéressaient à lui. Mais sur combien de listes de prières te trouves-tu aujourd'hui? S'il y a des personnes, si on ouvre leur Bible et on voit des listes de prières, est-ce que ton nom les figure? Mais c'est dans la communion, c'est dans la prière, c'est dans l'intercession. C'est dans cet amour que nous avons les uns pour les autres. C'est le fait de veiller les uns sur les autres pour nous provoquer, nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. C'est dans ce contexte-là que nous allons avoir connaissance. Ah, tu pries pour moi. Et tout d'un coup, au milieu de la nuit, Dieu te réveille. Et tu es à genoux. Et Dieu te dit, tu pries pour une telle famille. Mais je ne connais pas. Tu pries quand même. Tu pries, tu intercèdes. Tu pries, tu pries. Et tu fasses une heure dans ton centre, donc avant de t'endormir à nouveau. Et 2-3 jours après, tu arrives au culte. Je suis en train de parler avec quelqu'un. Il te dit, oui, voilà, donc, moi, je m'appelle un tel, je suis de telle famille, et tu te rappelles que Dieu t'avait mis à cœur de prier pour eux. Parce que c'est la liste de prières que tu avais, et on va refaire une liste de prières, mais c'est la liste de prières que tu avais, comme nous avons l'habitude de les faire. Tu avais vu un nom, tu ne les connaissais pas, mais tu as eu à cœur de prier pour eux. Et tu découvres qu'ils passaient par un moment très difficile, ils avaient besoin d'appui dans la prière, et Dieu t'a utilisé toi. Parce que vous savez, quand Dieu nous réveille la nuit et qu'on doit prier, à un moment donné, après une heure, après une demi-heure, 40 minutes, tout d'un coup, on sent un soulagement. Et on s'endort tranquillement. Et après, on entend dire, c'était à ce moment précis, quand il y avait un combat, il y avait une lutte, il fallait qu'on prie, et après on va se rendre compte, c'est à la gloire de Dieu, la victoire a été remportée. Alléluia. Parce que la prière du juste a une grande efficacité. La prière du juste a une grande efficacité. Es-tu justifié en Christ? Alors tes prières sont les prières d'un juste. Les prières d'un juste. Et vous savez, le diable a peur de quelqu'un qui prie. Le diable a peur de quelqu'un, il est intimidé par quelqu'un qui a l'habitude, comme Daniel, de prier. Vous savez, ce frère qui est venu nous rappeler qu'il fallait prier au moins 3 fois par jour, à genoux. 5 minutes, pas plus. 15 minutes le tout. Et là, vous verrez l'impact. C'est sûr qu'on peut chercher des méthodes, on peut chercher la manière de faire. Mais ce qui est important, c'est que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Pourquoi prions-nous? Parce que nous avons la foi. Nous avons la foi, c'est pour ça que nous prions. Si nous n'avons pas la foi, nous ne prions pas. Pourquoi sommes-nous ici ce matin? Parce que nous avons la foi. Nous croyons en un Dieu vivant. Nous croyons en ce Dieu qui renverse les forteresses. Nous croyons aussi que lorsque nous nous soumettons à Dieu et que les armes de notre milice ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Elles sont puissantes pour renverser ces forteresses d'incrédulité qui viennent s'installer dans notre cœur, dans notre tête. La Bible dit qu'il faut fuir et qu'il faut renoncer à ce péché qui nous enveloppe si facilement, ce péché de l'incrédulité, du doute qui vient s'installer. Quand on renverse ses pensées, la Bible dit qu'on amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et on se soumet aux promesses de Dieu. Et on voit la bénédiction de Dieu dans notre vie parce que nous sommes un peuple de prière. Un peuple de prière. Je vous ai dit au départ, quand on est en il y a 31 ans, on avait une réunion de prière, on était 12 et les 12 étaient toujours là. On avait l'étude biblique et les 12 étaient à l'étude biblique. On avait le culte le dimanche matin et les 12 étaient. On avait l'évangélisation l'après-midi et les 12 étaient. Quand on est nombreux, ce n'est pas tout le monde qui vit tout. Et des fois on est en marge, des fois on se sent, Seigneur, tu ne nous bénis pas quand tu bénis les autres. Mais place-toi à sa portée, place-toi. Intéresse-toi à être avec un peuple de prière. Intéresse-toi à connaître les habitudes de ceux qui ont compris ce que ça veut dire de renoncer à tout, de renoncer à soi-même, de prendre la croix et de suivre Jésus. Vous savez, moi je pense aux familles. La Bible dit que la famille, le couple qui prie ensemble, le couple qui ne permet que rien ne vienne faire obstacle à cette prière, c'est un couple qui vit dans l'harmonie, dans la soumission. On lisait ça dans 1 Pierre chapitre 3. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui vient faire obstacle à nos prières. Un jour au Mexique, il y avait un ancien de l'église. Il m'appelle et me dit, Marc, votre fils, il est touché par une méningite, il est en train de mourir. Et alors c'était un ancien d'une autre église, pas une autre, mais bon, c'était pour ça, c'était une autre église que je connaissais. Il me dit que tu pourrais venir prier pour lui. Alors j'arrive, et le petit George, il était attaché parce qu'il avait des convulsions. Il était inconscient, mais il avait des convulsions dans ce coma. Le médecin était là, c'était très très grave. Et alors j'arrive et je dis à Ramon, tu pries, et après moi je prierai. Silence la vie. Mais Ramon, prie, ton fils est en train de mourir, prie. Silence la vie. Je me trouve avec Patricia, tu pries, et après moi je prierai. On est là pour prier ensemble. Mais prie. Silence. Et tout d'un coup, au bout de 2 minutes interminables, elle s'est mise à pleurer, elle dit, Marc, comment tu veux qu'on prie? Ça fait 4 jours qu'on ne se parle pas. Assure certains, ils n'étaient pas en train de lire la Bible, prier non plus. Hein. Ils ne se parlaient pas. Ils étaient dans un conflit interne. Et alors là, devant le médecin, ils se sont réconciliés, ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre, ils ont demandé pardon. Alors nous, on était tous en pleurs, le médecin a cru, etc. Et après, tous les deux, ils ont mis la main sur Georges, ils ont prié pour lui. Il était dans le coma, le médecin disait que vraiment c'était la fin, etc. 4 heures après, il courait dans la maison. Et jamais je ne vais oublier. Un couple chrétien ne peut pas abriter des tempêtes à l'intérieur de leur vie. Il faut être toujours prêt à faire face à n'importe quelle tempête qui viendrait de l'extérieur. Mais le couple qui prie ensemble, qui veille à ce que rien ne vienne faire obstacle à leur prière, c'est un couple qui marche en harmonie dans la victoire. Et leurs enfants aussi suivent. Pourquoi? Parce que c'est un couple qui prie. Oh, les prières, c'est midi, matin et soir. Le psaume 88, jour et nuit, tu entends ma voix. Le psaume 63, pendant l'éveil de la nuit, lorsque je suis couché, je lève ma prière à toi, Seigneur. Oh Dieu, tu es mon Dieu, mon âme a soif de toi. Mon cœur te désire dans une terre aride et desséchée sans eau. Je veux voir ta gloire, contempler ta magnificence. Seigneur, je veux te voir. Je veux te voir dans ma vie. Et lorsque je suis sur ma couche de veille de la nuit, je médite sur toi. Je prie. Mon âme est attachée à toi, Seigneur. C'est tellement important qu'on communique à nos enfants l'importance de la prière. L'importance que nous avons ce privilège de pouvoir nous approcher du trône de la grâce de Dieu pour être secourus dans nos besoins. Dans l'église, moi j'ai eu des jeunes qui m'ont dit, Marc, publie pour moi, tu sais, je passe mon bac demain. Est-ce que tu t'es préparé pour ton bac? Pas tout à fait, mais bon, mais je sais que si tu pries, ça ira. Oui, c'est vrai que Dieu peut nous aider parce qu'il peut y avoir un sujet auquel on ne pensait pas, mais qu'on était bien connaisseurs, qui pourrait nous être présenté, etc. Mais alors, de la même manière, comme un jeune prépare son bac tout au long de l'année, n'est-ce pas? Il y a des devoirs à faire, il y a des préparations, etc. à faire. Et au moment venu, il passe son bac et il est dans la joie parce qu'il s'était préparé. Nous aussi, on a souvent des examens dans la prière, mais il faut se préparer. Il faut se préparer. Vous savez, il y a des personnes qui me disent, voilà, je suis vraiment dans un combat, il faut que je passe 3 jours dans les jeûnes et la prière, et je sais que ça va bouger. Mais ce n'est pas parce que tu jeûnes que tu pries 3 jours tout d'un coup, sans avoir l'habitude de prier, de chercher la face de Dieu, que la situation va s'en aller. Ce n'est pas pour ça que le diable va avoir peur, parce que tout d'un coup, tu te réveilles et tu dis, ah, il faut que je jeûne pendant 3-4 jours, et ça ira. Non, c'est quelque chose de constant, c'est quelque chose de régulier dans notre vie. Moi, je crois que le combat spirituel, un des armes les plus puissants, c'est un homme ou une femme de Dieu, un chrétien, qui est un homme de prière, constante. Parce que le diable a peur de la constance. Le diable a peur de la discipline. Le diable a peur qu'on ait découvert l'habitude et qu'on dise, Seigneur, dès le matin, tu entends ma voix. Dès le matin, tu entends ma voix, Seigneur. Prends l'habitude, dès que je me réveille, tu entendras ma voix, Seigneur. Parce que je veux être en communion avec toi. Je veux te connaître. Je veux aussi être connu de Dieu. Je veux qu'à chaque instant, dans la prière, tu penches ton oreille vers moi. Le psaume 116, pardon. Le psaume 116. Regardez ce psaume. Vous savez, David, c'était un homme de prière. Le psalmiste, c'était des hommes de prière. Mais regardez le psaume 116. C'est un psaume qui vraiment nous accompagne dans ce parcours de prière. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Quand il a penché son oreille vers moi, je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses se plus qu'on m'avait saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance dans ce que je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout en m'étant peur, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Et la vie prie aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur. Ton serviteur, fils et ta servante, tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action des grâces. J'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. On est parmi de la maison de l'Éternel au milieu des toits de Jérusalem. Loué l'Éternel. À combien de fois on a entendu « J'invoquerai ton nom. J'invoquerai ton nom. J'invoquerai ton nom. » Waiting for you back there. Yeah. Une dame, donc, vous venez la chercher. Yeah. God bless you. Alors, j'invoquerai ton nom. Seigneur, tu m'entendras. Seigneur, tu entends mon cœur. Seigneur, tu me connais. On a chanté ce matin. Seigneur, je te cherche. Tu me connais. Est-ce que c'est une réalité? Moi je rêve pour le jour où la salle sera remplie, lorsqu'on est appelé à la prière, à chercher la face de Dieu ensemble, à plier nos genoux devant le Seigneur, que la salle soit remplie et qu'il penche son oreille vers nous, qu'il incline son oreille vers nous. Vous savez, quand Dieu dira, tu appelleras et je répondrai, me voici. Esaïe 58, quand tu passes le temps de jeûner, tu me dis devant le Seigneur. Tu pratiques le jeûne qui fait plaisir à son cœur. La Bible dit alors, tu appelleras et je répondrai. Tu appelleras et je répondrai. Et je dirai, me voici, c'est extraordinaire. Dieu veut nous dire, me voici. Parce que tout ce que nous demandons, c'est pour que nous soyons fidèles à accomplir les œuvres pour lesquelles Dieu nous a appuyés. Il a accompli le désir de ce Dieu. Fais de l'éternel de tes délices, il te donnera le désir de ton cœur. Recommande ton sort à l'éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Garde le silence devant l'éternel. Fais de l'éternel de tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Pour que tu puisses être un homme, une femme fidèle, un disciple de Jésus-Christ. Que des âmes viennent à lui, et que les familles soient transformées, que les cœurs se tournent vers Dieu. Résultat de nos prières, résultat de notre intercession. Et moi je vais vous étonner, mais je ne me limite pas à dire qu'on ne va pas ouvrir un deuxième lieu de culte en région parisienne un jour. Pourquoi? Parce que Dieu aime. Parce que Dieu aime les différents arrondissements où il n'y a pas d'église. Vous savez qu'il y a des arrondissements à Paris où il n'y a pas d'église locale, biblique, ni baptiste, ni presbytérienne, ni méthodiste, ni évangélique, ni assemblée des dieux, rien. Il y a des arrondissements à Paris où il n'y a pas d'église. Savez-vous? Et si Dieu mettait sur votre cœur dans la prière d'aller dans un de ces arrondissements où il n'y a pas d'église, qu'il y a un lieu dans lequel le Saint-Esprit peut attirer des personnes qui sont assoiffées de Dieu. Ils commencent à lire la Bible en cachette, ils ne savent pas pourquoi ils la lisent. Et que tout d'un coup, Dieu ouvre une place, ouvre une porte comme il l'a fait ici dans l'église. Alors, la prière, on ne peut pas la contourner. Jésus a prié en Gethsémané, Père, pas ma volonté, mais la tienne. Et ça, c'est l'ultime prière que nous devons exprimer. Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. Je t'encourage, pour ta famille, auprès de tes enfants, ayez un moment de prière, peut-être deux fois par semaine. Tous les jours, peut-être pas, mais au moins deux fois par semaine, laquelle on rassemble nos enfants, on prie avec eux, on leur montre que la prière est tellement importante dans nos vies, dans nos cœurs. Et nos enfants vont grandir et vont se dire, je recours à la prière, je recours à la prière. C'est pour mon bien de m'attacher à Dieu. De chercher sa face. Prions. Seigneur, tout passe par la prière. Nous sommes un peuple de prière. Ta maison est une maison de prière. Ce n'est pas les quatre murs, ce n'est pas la salle. Ta maison, c'est nous, c'est nous tous. Je te demande, Seigneur, que vraiment, Seigneur, tu touches nos cœurs. Toi, Seigneur, rien n'est impossible. Tu as déjà chanté. Il n'y a rien d'impossible, Seigneur. Les choses ne sont pas comme elles semblent, elles sont comme toi, tu les dis. Parce que nous sommes face à des montagnes. Et on se fait des montagnes parfois. Et on pense que c'est vraiment des choses insaisissables et impossibles à franchir. Mais Seigneur, tu me demandes de faire confiance. Tu me demandes, Seigneur, de chercher ta face. Tu nous demandes de nous humilier devant toi. C'est pour ça qu'une fois par mois, on passe ce temps pour le culte, pour le jeûne, la prière. Seigneur, afin de nous humilier devant toi. Seigneur, que tu entends notre prière. Que nous ayons la confiance et l'assurance que lorsque nous ouvrons notre bouche, Seigneur, ton oreille est attentive. Bien sûr, ne dédaigne pas un cœur contrit et humilié. Oh Dieu, crée-moi un cœur pur, renouvelle-moi un esprit bien disposé. Ne me réjouis pas loin de ta face. Nouvelle en moi ton Saint-Esprit, Seigneur. Car je veux, Seigneur, voir l'impact de ma vie de prière.
veux qu'autour de moi, Seigneur, il y ait des personnes qui tombent dans tes bras d'amour, qui tombent au pied de la croix, parce que nous prions. Parce que nous prions. Maintenant, si tu peux venir et on va chanter à la croix, je me prosterne. Ton sang coule pour moi. Seigneur, je te demande, Seigneur, que chacun de nous, quand on vient ici, aux réunions de prière en semaine, quand on va dans les groupes de maison, quand on vient au culte, quand on vient au groupe des jeunes, quand on vient, Seigneur, voilà, il y a la prière préparative au quartier libre, par exemple, il passe du temps, une demi-heure plus dans la prière. Soit quand on vient ici, Seigneur, et quand on se rassemble avec nos frères et sœurs, que notre souci principal, ça soit de prier ensemble, de prier les uns pour les autres, de s'encourager, et Seigneur aussi, de toucher ton cœur. Au nom de Jésus-Christ, qu'il y ait des transformations. Transformation dans les vies, Seigneur. Que les membres des familles qui ne sont pas encore à toi, Seigneur, viennent à toi, Seigneur, comme résultat de nos prières, de notre intercession. Aide-nous, Seigneur, à comprendre, Seigneur, comment toi tu intercèdes pour nous. Et c'est pour ça que nous tenons debout, parce que tu intercèdes pour nous. Tu pries pour nous, Seigneur. Et tu as dit à Pierre, Pierre, tu seras criblé comme le flambeau. Pierre, tu auras l'impression que tu as tout perdu, mais ne t'inquiète pas, j'ai prié pour toi. C'est pour ça que Pierre a pu, au jour de la Pentecôte, se lever à nouveau, pardonner, transformer. Il a pu annoncer ta parole et 3000 personnes se sont converties en un jour. Seigneur, aide-nous à comprendre, Seigneur, où tu nous attends. Quels sont les rendez-vous que tu nous donnes. Aide-nous, Seigneur, à appliquer à notre vie, Seigneur, ce désir ardent. D'être avec des hommes et des femmes qui t'invoquent d'un cœur pur, d'être avec des familles qui t'invoquent d'un cœur pur, d'être, Seigneur, avec ceux, Seigneur, qui te cherchent, Seigneur, qui nous incite à chercher ta face, qui nous incite, Seigneur, à frapper à la porte, c'est ce que la porte soit ouverte à chercher jusqu'à trouver. Et que ton nom, Seigneur, soit honoré dans nos vies. Délivre, Seigneur, délivre. Libère entièrement les captifs. Au nom de Jésus-Christ. Dans un espoir, la vie d'espérance, Seigneur, à tous ceux qui ouvrent leur cœur, Seigneur, à toi. Que des miracles soient au milieu de nous. Et que des signes et des prodiges accompagnent l'annonce de ta parole. Que des signes et des prodiges accompagnent, Seigneur, ton témoignage. Comme dans le livre des Actes des Apôtres. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Levons-nous tous et chantons ce chant. Seigneur,